section de ce chapitre qui s'intitule Les premiers théologiens. Alors bien sûr, les autres aussi étaient des théologiens, hein, mais là, théologien au sens où ils vont pas simplement s'adresser à l'extérieur, mais aussi commencer à s'adresser à l'intérieur, soit pour combattre les hérésies naissantes, soit tout simplement pour approfondir la révélation, ce qui est vraiment le travail des théologiens. Donc c'est une première théologie qu'on appelle anténicéenne, parce qu'elle a eu lieu avant le concile de Nicée, qui va fixer la divinité du Christ, et puis qui va bientôt préparer la théologie des deux natures et tout ça. Donc ça veut dire que c'est une théologie qui a encore des formulations pour nous parfois un peu surprenantes, hein, encore incomplètes, mais qui fait preuve d'une certaine justesse doctrinale, puisqu'elle va débusquer des hérésies déjà réelles. Donc, une première théologie qui naît des controverses, justement, avec les doctrines hétérodoxes, qui s'éloignent de la Regula Fidei, et en même temps qui va être relayée à peu près à cette époque par la fondation d'école, entre guillemets, qui cherche à explorer le donné révélé, et en particulier une de ces écoles, ce sera l'école d'Alexandrie. Une autre, on l'appellera d'Antioche, mais c'est moins une école, en fait, c'est plus des gens qui ont pensé à peu près la même chose au même endroit. On va donner à Anne-Sophie une image. Un texte.
Ah bon,
qu'est-ce que c'est qu'une école par rapport à ce que vous venez de
dire ? Une école, c'est une école au sens. Une école philosophique.
Voilà. Non, mais une école théologique. Enfin, des gens qui pensent la même chose au même endroit, c'est pas une école.
Mais qui ne sont pas toujours en lien les uns avec les autres, c'est pour ça. Ah, alors, d'accord. Au même endroit, c'est. En gros, c'est la région d'Antioche, à peu près au même moment, mais qui n'ont pas nécessairement des liens de maître à disciple, etc. Alors qu'Alexandrie, c'est beaucoup plus structuré. On verra ça.
Il s'exprimait en grec.
Ah oui, tout le monde s'exprime en grec. Hein. Tiens, par exemple, j'ai fait une découverte là, en préparant mon cours sur Grégoire de Nice. Je me suis rendu compte que pour... Parlant de la connaissance de Dieu, il dit que on entre dans la ténèbre, c'est-à-dire, autrement dit, c'est la théologie négative, c'est-à-dire que de Dieu, ce qu'on sait surtout, c'est ce qu'on ne sait pas. Et donc, quand on croit qu'on sait, c'est qu'on se trompe. Et donc, la connaissance, enfin, Dieu est une lumière tellement illuminante que ça nous aveugle, quoi, en somme, c'est l'idée. Donc, ça nous plonge dans la ténèbre. Et alors il dit, oui, mais ténèbres, c'est négatif. Alors comment on peut entrer dans la ténèbre, en citant le livre de l'Exode, comment on peut entrer dans la ténèbre alors que ce qui est ténébreux, c'est plutôt le symbole de l'ignorance. Alors il distingue entre l'obscurité et la ténèbre. Alors obscurité, ça donne skotos, skot. Hein, quand on parle des skots, c'était les gens qui vivaient dans des pays ténébreux, enfin obscurs. Voilà. Skotos. Et alors, par contre, la ténèbre, c'est un vieux mot qui est gnophos. Et gnophos, quand on parle de la connaissance, c'est gnosis. Et vous voyez, il fait une sorte d'assonance entre la connaissance et la vraie connaissance qui est la ténèbre. Alors évidemment, en français, ça ne voit rien, parce que la connaissance de Dieu et puis la ténèbre, ça n'a aucun rapport. Tandis qu'en grec, ça marche, il y a une assonance. Hein, la connaissance est gnosis. J'imagine que celui qui connaît, c'est un gnosos ou un gnoséos, je ne sais pas. Et il connaît quoi ? Ben, la gnophos, la ténèbre. Oui, c'est intéressant. Tiens, on va donner ça à Damien.
Entre ceux qui parlaient latin et ceux qui parlaient grec, justement, comme il y avait beaucoup
oui.
de...
Oui, alors ceux qui parlaient latin, il n'y en avait pas beaucoup. Parce que les latins, en gros, les premiers chrétiens étaient tous des immigrés. Donc ils venaient... Tiens, on va en donner à Daniel aussi. Alors, finalement, ça c'est jusqu'au 3e siècle à Rome, on parle grec dans les milieux chrétiens. Et c'est seulement un peu avec l'Afrique du Nord, qui était très peu hellénisée, parce que globalement, elle n'était pas très développée, hein, donc pas très fufute, donc pas très cultivée, donc ils parlaient que latin. Et c'est à partir de là que la théologie latine s'est développée en langue latine, parce que sinon, dans les milieux continentaux, enfin européens, on parlait grec. Et c'est une fois que les chrétiens ne sauront plus le grec, parce que le christianisme se sera répandu dans les couches, disons les couches populaires romaines, gauloises, qui elles parlaient plutôt latin que grec, que on va changer de langue. Donc la langue de la liturgie, la langue du culte, la langue de la théologie va devenir le latin. Mais avant c'était le grec.
Même à Rome on parlait grec.
Ah oui. Oui, on parlait grec. Les empereurs, même les empereurs parlaient grec. Mais les gens, comme au XVIIIe siècle, les princes parlaient français entre eux. Dis pas que Frédéric II faisait traduire par ses officiers les ordres qu'il donnait à ses troupes, parce qu'il parlait français. L'aristocratie allemande parlait français allemand aussi, et donc elle traduisait pour les officiers subalternes les ordres. Mais là, c'est la même chose. Regardez, les empereurs romains, ils écrivent en grec, hein, à cette époque. Et donc, les milieux cultivés parlaient grec, et les milieux chrétiens, qui n'étaient pas très cultivés, mais qui étaient à l'origine des gens venant du Proche-Orient, parlaient évidemment la langue, le basic English local, de l'époque, qui était le grec de la koiné, et le grec commun, quoi. Et puis, alors ensuite, au fur et à mesure que les Romains de souche se sont fait évangéliser, eux, ils n'ont pas changé de langue, hein, ils ont gardé leur langue, et du coup, on est passé plus... Par exemple, Hippolyte de Rome, il parle encore en grec, là, au IIIe siècle. Alors, je dis, sauf en Afrique. En Afrique, là, il y a eu une pénétration hellénique beaucoup moins importante, et les gens parlaient latin. Par exemple, on voit que autant Ambroise comprend le grec, c'est un haut fonctionnaire, donc il faut qu'il sache le grec, autant Augustin annonce le grec. Et c'est pour ça qu'il correspond avec Saint Jérôme, du reste, pour obtenir des précisions sur l'original grec des évangiles. Et parce qu'il a une connaissance rudimentaire du grec. Et pourtant, il a fait des grandes écoles de recteurs. Hein. Alors, paragraphe premier, orthodoxie et hétérodoxie. J'appelais ça comme ça. Donc, au développement de doctrines qui s'éloignent de la regula fidei, s'oppose la réaction de pasteurs chrétiens de génie, le plus connu étant saint Irénée de Lyon. Alors, j'ai présenté quelques-unes de ses doctrines. Alors, on va donner à Henri encore une page, là. Alors, les doctrines hétérodoxes. Grand 1. Alors, j'ai mis petit 1. Orthodoxie et hérésie dans l'Église antique. Alors, vous savez, le propre des hérésies, comme on dit, c'est de majorer des données authentiques du dogme, de la tradition ou de la morale, au point de fausser l'équilibre d'ensemble. Et cela peut se faire soit de façon progressive, par exemple de nouvelles opinions théologiques qui apparaissent, ou alors de façon traditionnelle, en s'accrochant à des données anciennes qui sont devenues obsolètes. Obsolètes parce que pas suffisamment précis, pas suffisamment... ou alors des données anciennes qui avaient été faites d'une manière trop maladroite, par exemple. Alors, de temps en temps, il faut savoir prendre distance avec des formulations traditionnelles. Par exemple, une des formulations traditionnelles pour parler de Jésus, c'est dire « païs », hein, l'enfant, qui est en même temps le petit serviteur dans le monde grec. L'enfant qui sert à table. Quoi. Et alors, c'est bien, Jésus, effectivement, est enfant, serviteur, tout ça. Mais enfin, ça manque de précision par rapport aux conciles de Chalcédoine, etc., définiront davantage la personnalité du Christ. Et donc, s'attacher à des formulations anciennes, parfois, c'est refuser de faire rentrer la précision théologique dans la culture chrétienne. Alors, c'est sûr que la distinction entre hérésie et orthodoxie, pour reprendre un titre de Chesterton, n'était pas facile à faire du fait que les instances compétentes pour définir la vérité révélée n'étaient pas encore très développées. Alors bien sûr, il y avait des évêques qui étaient plus ou moins maîtres de doctrine dans leur coin, mais ils n'étaient pas toujours très... Il n'y avait pas d'école théologique. Ils communiquaient comme ils pouvaient les uns avec les autres. Et l'organisme central n'était pas très central à l'époque, il faut bien le reconnaître. Ça veut dire que, globalement, on se reportait toujours à la règle de foi, qui tournait toujours plus ou moins autour de la triple énonciation au moment du baptême, donc le symbole baptismal. Donc, le critère retenu, c'est cette regula fidei, règle de foi, qui trouve son fondement dans l'Écriture, et qui est transmise par la tradition de l'Église et qui trouve son approbation qui trouve son approbation dans le consentement des Églises et donc de leurs pasteurs. Vous savez qu'à l'époque, les évêques s'envoyaient des litterae communionis, là, des lettres de communion. Non seulement ils disaient quels sont les livres qui sont reçus dans leur église comme canoniques, mais aussi où ils traitaient des différentes questions pour dire s'ils étaient d'accord, pas d'accord entre eux, en somme. Et il y avait sans arrêt des tas de synodes qui se réunissaient pour régler toutes ces questions qui se posaient. Donc à l'époque qui nous intéresse là, qui est en gros le début du IIIe siècle, il n'y a pas le magistère pétrinien est vraiment embryonnaire. Hein. Et saint Ignace d'Antioche, vous vous souvenez, traitait les hérésies naissantes au début du deuxième siècle comme des herbes vénéneuses qui distillent leur poison dans les âmes. Alors l'une de ces styles d'hérésie, c'est la gnose. Alors, je me suis amusé à vous recopier un exemple de doctrine gnostique. Alors, je vais le faire passer. Je vais en garder un pour moi, quand même. Alors, vous savez, alors donc, gnose, en grec, ça veut dire tout simplement la connaissance. Hein. Donc, gnosis. C'est l'effort de l'esprit humain pour connaître, hein, tout simplement, et pour connaître en particulier le divin. Et on peut dire que c'est légitime dans la mesure où l'intelligence est ouverte sur l'être, hein, sur ce qui existe, donc sur l'universel, et donc sur ce qui est le plus... plus fondamental sur l'absolu, hein, sur le divin. Donc c'est normal que la connaissance prenne en compte l'être dans toute sa profondeur et jusque dans son premier jaillissement, dans son origine. C'est justement ce qui manque à notre époque. Hein. Nous, la connaissance, elle est bornée. Saint Benoît XVI n'a pas cessé de le répéter. Elle est bornée à ce qu'on peut mesurer, en gros. On considère qu'elle est digne de connaissance, qu'on peut utiliser, manipuler, pour... Et ça, il l'avait dit notamment, tiens, quand il était allé à Prague, hein, Donc il avait souligné, il n'a cessé de rappeler que l'intelligence humaine n'est pas faite uniquement pour la connaissance des choses matérielles, pour la connaissance des choses qui sont... Il n'y en a plus. J'en ai fait 25, j'ai manqué d'espérance.
Voilà.
Sinon, c'est pas bien. Mais alors, donc c'est bien de chercher à connaître l'être primordial, mais c'est aussi dangereux, car c'est parfois vouloir forcer le mystère. En somme, ça peut aboutir à réduire l'absolu à du limité, parce qu'il faut quand même bien reconnaître que même si on a un esprit, on n'a pas l'esprit le plus intelligent qui soit. Donc on risque de réduire l'infini aux mesures de notre finitude. Comme disait saint Thomas dans un texte amusant, enfin en latin, il disait que tout ce qui est reçu selon le mode du recevant. Quidquid recipitur, recipitur ad modum recipientis. Et alors évidemment, si vous mettez l'océan dans un verre d'eau, vous aurez qu'un verre d'eau à la fin. Donc ça ira pas très loin. Donc face à l'infini, notre intelligence est quand même limitée. Alors le risque, c'est de s'imaginer qu'on arrive à en faire le tour, vous voyez. Séduit par nos capacités intellectuelles, on se dise qu'on arrive à connaître vraiment le divin. Et là, on se tromperait quand même de manière très importante. Et la deuxième particularité de la gnose, c'est que non seulement ils croient qu'ils arrivent à connaître le divin, mais en plus, qu'il suffit de connaître pour être sauvé. Donc ça dispense de la conversion morale, si vous voulez. C'est très platonicien hein, d'origine, c'est-à-dire en général, celui qui fait le mal, c'est qu'il ne savait pas qu'il y avait un bien. Donc il n'est jamais vraiment fautif d'une certaine manière. C'est la non-connaissance qui est la cause de la faute.
Ah oui, c'est ce que dit Platon, effectivement.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, regardez par exemple en droit pénal ou dans des trucs comme ça, dans des tas de choses comme ça, on excuse les gens en disant ils ne savaient pas, alors ce n'est pas de leur faute. Par exemple, les ministres qui ont de la phobie administrative, par exemple, ils ne savent pas toujours qu'il faut payer des impôts, donc ils ne sont pas vraiment coupables non plus, du coup. Mais ils auraient dû le savoir quand même, ça on oublie de leur rappeler, qu'il y a des ignorances coupables quand même. Donc le problème de la gnose, c'est bien cette idée qu'il suffit de savoir pour être sauvé, mais elle ajoute encore une troisième caractéristique, c'est qu'il y a ceux qui savent naturellement, facilement, il y a ceux qui savent avec difficulté, sont obligés de passer par une sorte de conversion, et puis il y a ceux qui ne peuvent pas savoir, parce qu'en fait on est tous pareils hein, apparemment, mais en fait non. Parce qu'il y en a certains, ce sont des sortes d'étincelles du divin qui sont égarées dans de l'humain. Il y en a d'autres qui sont plutôt des psychiques qui sont capables de passer de l'animal au divin avec un peu d'effort. Puis il y en a d'autres qui sont des belles carrosseries, si j'ose dire, mais il n'y a rien dedans, quoi. Donc c'est des purs animaux qui resteront animaux toute leur vie. Alors, on pourrait être aussi tenté de penser ça aujourd'hui. Enfin bon, on ne le pensera pas, hein. Sinon on deviendrait gnostique. Donc, autrement dit, il suffit qu'ils fassent l'effort de connaître, ils sont sauvés. Et il y en a d'autres, ils pourront faire tous les efforts qu'ils voudront, ils ne seront vraiment pas sauvés. Alors voilà, ça c'est la gnose. Donc, l'idée, hein, c'est que vous... connaître, c'est se rendre compte qu'on est un... Alors, donc, pas pour les uliques, ni pour les psychiques, mais pour les pneumatiques, parce que c'est eux qui sont sauvés, hein, ceux qui ont le pneuma, l'esprit. Donc, au moment où ils comprennent, c'est comme dans la caverne, là, quand ils se retournent et qu'ils comprennent qu'ils ne sont plus dans l'illusion... ils s'aperçoivent qu'ils sont un bout de divin séparé de son tronc, en quelque sorte, et que qu'est-ce qui fait qu'ils sont séparés, c'est ce qui est matériel. Donc il faut faire une épistrophée, là, une conversion, pour se libérer de tout ce qui est matériel et tendre vers l'immatérialité, et à ce moment-là se fondre dans le divin dont on est issu. Donc ce qui veut dire qu'on perd sa personnalité aussi, hein. Mais notre personnalité est une illusion, elle est, parce que c'est la matière c'est la matière qui individualise. Ce qui veut dire aussi que saint Thomas n'est quand même pas très clair aussi au XIIIe siècle, parce que quand il dit que c'est la matière qui individualise, en fait, globalement, dans son système qui est chrétien, c'est pas la matière, c'est la forme. Mais là, il est tributaire de cette pensée platonicienne. Et il en est d'autant plus tributaire, vous savez, qu'un des grands ouvrages qui se lisait au Moyen-Âge, c'est les noms divins ou les hiérarchies divines du pseudo-Denis, qui n'est pas du tout le disciple de saint Paul, qui est un obscur moine du VIe siècle, et se faisant passer pour Denis l'Aréopagite, en même temps premier évêque de Paris, du coup, tout le monde recevait ça avec beaucoup de respect. Mais vous avez un parfait exemple de pseudonymie qui a trompé le monde. Hein. Alors, ça n'empêche pas que dans le néoplatonisme de pseudo-Denis, il y a quand même des choses extrêmement justes, hein, et vraies. Mais néanmoins, c'est quand même une doctrine qui prolonge le platonisme, hein, dans le christianisme. Donc, voyez, le but, enfin, la conséquence du gnosticisme, c'est d'avoir une humanité élitiste. Alors, chez nous, dans le christianisme authentique, c'est un élitisme pour tous, si j'ose dire. Hein, tout le monde peut devenir saint, même les gens les plus disgraciés par la nature. Tandis que dans cette doctrine, seuls peuvent devenir saints ceux qui sont vraiment spirituels, quoi. Mais qui le sont par nature, vous voyez. Et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas vraiment de conversion morale dans ces trucs-là. Sinon, le fait de se débarrasser de tout ce qui est matériel. Vous voyez en quoi le gnosticisme n'est pas du tout chrétien, hein.
Il n'y a pas d'unité de la nature humaine, en fait.
Non, non, non. Non, 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 c'est le mariage de la carpe et du lapin, comme on dit. Et donc, il faut se débarrasser de tout ce qui est matériel. Donc, ils auront des tendances ancratistes, donc contre le mariage, etc. Alors, c'est une doctrine vraiment très élitiste, parce que si on veut aller jusqu'au bout, il faut se suicider, hein. Alors, on aura avec les cathares des exemples de ça. Mais vous avez un peu, vous voyez, des fakirs. Parce que ça, en gros, cette doctrine, on peut dire qu'elle s'est développée dans ce que Karl Jaspers appelle la période axiale de l'humanité, à peu près au moins 5e siècle. On trouve à peu près toutes les doctrines dualistes qui se développent, qui se développent aux Indes, qui passe en Grèce, etc., en Égypte, en Perse, enfin un peu partout, on a ces doctrines dualistes qui sont très exigeantes, évidemment, qui sont inhumaines d'ailleurs, parce que la nature humaine, justement, elle n'est pas, c'est pas une étincelle du divin perdu dans de la matière, et qui sont en fait hypocrites, parce que les gens qui les confessent, ils vont jamais jusqu'au bout de leur doctrine, hein. Sinon, je vous dis, ils se suicideraient tous, hein. Alors, il existait, alors évidemment, c'est une doctrine aussi qui a poussé, alors qui a eu l'avantage quand même de se dire qu'il y a un monde au-delà de la matière. Ça, c'est aussi un achèvement au-delà. Mais bon, il n'y a pas que qui disait ça. Alors, il existait une gnose juive, hein, figurez-vous, et aussi une gnose chrétienne. Saint Paul le dit, par exemple dans la première aux Corinthiens, chapitre 2, verset 8 ou 10, où il parle du mystère de Dieu révélé par l'Esprit. Ça, c'est la vraie gnosis, la vraie connaissance. Connaissance où l'on peut connaître la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur du mystère. Ça, vous l'avez dans l'Épître aux Éphésiens. Lui-même, Saint Paul, parle de son expérience où il a été élevé au troisième siècle. Ciel, pardon. En troisième. Il s'arrêtait avant la fin. Mais par exemple, vous aurez les néoplatoniciens qui sont un peu gnostiques quand même, et ben ils vont avoir aussi Plotin, tous ces gens-là vont avoir aussi des expériences mystiques qui vont fortement marquer leur doctrine. Alors, on a vu que la première lettre la lettre de Saint Clément, et puis celle du pseudo Barnabé, parle aussi de ce don de la gnose que Dieu a implanté dans l'âme. Donc vous voyez le don de la gnose.